Alors, c'est le papier ce matin de Jessica Nadeau. Donc, dans Le Devoir, il y a une vague de surdose mortelle à Montréal. Il y a eu 23 décès juste pour le mois de juillet. Et ça, c'est des drogues de la rue, là. Des drogues de la rue, ça veut dire, par exemple, du crystal meth, donc de la méthamphétamine, hein, c'est le bon terme, des amphétamines, donc du speed, du crack, cocaïne. Et ça touche, selon la santé publique, ça touche principalement des hommes âgés entre 50 et 59 ans. Puis habituellement, on retrouvait ces décès au centre-ville, mais là, on retrouve ces hommes morts chez eux. Pour en discuter, le Dr Carole Morissette, elle est médecin conseil à la Direction régionale de santé publique de Montréal. Bonjour, Dr Morissette.
Bonjour.
Comment avez-vous une explication, mettons?
Bien, en fait, on est très préoccupés parce que vous avez dit, là, c'est 23 décès, mais c'est 23 décès de trop, c'est extrêmement malheureux. On pense que ces décès-là peuvent être prévenus. Cette situation-là est vraiment particulière parce que c'est à peu près le double de décès que sont signalés, dans le fond, par le Bureau du coroner du Québec d'habitude. Donc, on est en régie, on surveille ça de près, mais on est inquiet de ces hommes, dans le fond, qui consomment possiblement tout seuls et qui décèdent sans, dans le fond, qu'une personne de leur entourage, un proche, puisse appeler le 911 et qu'une intervention soit faite. Donc, c'est le message qu'on laisse à la population. De pas consommer seul, c'est vraiment important. Dans tous les cas, quand il y a une réaction inhabituelle, ça permet au moins qu'il y ait une intervention de prévention qui soit faite et que ces décès-là soient évités.
Puis là, il faut être bien clair, dans tous ces décès, ou en tout cas dans la plupart, il n'est pas question de fentanyl, là. C'est ça qui m'a étonné, moi, là. On ne parle pas de fentanyl, là. On parle vraiment crack, cocaïne, speed et crystal meth, là.
Mais c'est ça. Dans le fond, les décès qu'on entrevoit en ce moment sont surtout dus à des mélanges et à des stimulants. Dans le fond, comme vous l'avez dit, le crack, la cocaïne, la méthamphétamine. Donc, il y a des drogues de synthèse aussi qui circulent à Montréal et qui nous préoccupent. Par contre, le fentanyl est aussi un problème qui arrive quasiment en même temps. Donc, tout se passe cet été. Au fond, on a une situation de décès dus à des stimulants, mais on a une réelle augmentation extrêmement préoccupante des surdoses qui sont dues au fentanyl ou en tout cas à l'héroïne contaminée avec du fentanyl. Mais comme peut-être vous le savez, le SPVM a fait des saisies très importantes de fentanyl à la mi-juin. Et effectivement, on voit depuis ce temps-là que le marché à Montréal, cette drogue, elle est vraiment disponible et ça se traduit par une augmentation de surdose qui demande, dans le fond, l'administration de l'naloxone, qui est l'antidote qui renverse les surdoses. Ça se traduit pas encore par plus de décès, possiblement parce qu'on a quand même une bonne couverture en naloxone et que les gens sont bien sensibilisés, mais nous, on est vraiment inquiets qu'éventuellement, on se retrouve dans une situation comme les autres villes canadiennes qui ont vu arriver le fentanyl là, en quantité.
Donc, il n'y a pas plus de décès liés au fentanyl, même s'il y a beaucoup de cas d'intoxication au fentanyl. Il n'y a pas plus de décès justement parce qu'on a le naloxone. Mais vous craignez qu'à un moment donné, ça ne soit pas suffisant. Et parallèlement à ça, on a l'augmentation des décès pour les quatre autres drogues dont on a parlé. Je veux dire, ça fait un méchant cocktail. Et là, il y a quelqu'un qui m'écrit, puis je le lis dans le papier également de Jessica Nadeau. Depuis le début de la COVID, la qualité de la drogue se serait détériorée.
Bien, en fait, je pense qu'effectivement, c'est plausible là, que, dans le fond, le marché de la drogue ait pu être influencé par la pandémie comme telle en termes de la disponibilité puis des marchés. Mais je pense que c'est vraiment le SPVM qui a un œil sur le marché montréalais qui peut vraiment en rendre compte. Par contre, on a quand même pas mal de témoignages de gens sur le terrain, les groupes communautaires, les usagers aussi avec qui on est en contact, qui nous rapportent effectivement. Surtout dans nos services d'injection supervisée, vous savez, on a toutes nos équipes d'infirmières, d'intervenants communautaires qui sont au quotidien à observer, à jaser avec les gens. Puis effectivement, on s'aperçoit qu'il y a des réactions inhabituelles et puis des expériences de consommation différentes. C'est pourquoi on appelle à la population avec beaucoup de précautions comme de vraiment diminuer la dose, de la tester avant, de s'assurer de ne pas consommer seule, puis d'avoir dans l'entourage quelqu'un qui sait comment utiliser la naloxone, c'est vraiment important. Puis
oui, mais la naloxone, c'est pour contrer le fentanyl, là. C'est pour...
Oui.
Oui, mais...
En fait, c'est pour tous les opioïdes, vous savez. Donc, il n'y a pas que le fentanyl, là. Il y a aussi des comprimés de contrefaçon qui circulent. Donc, on a quand même une situation assez complexe. Puis, il n'y a aucun danger à donner la naloxone, même si ce n'est pas indiqué. Donc, devant toute réaction inhabituelle, c'est correct d'utiliser la naloxone, mais surtout de ne pas oublier d'appeler le 911.
Parce que une naloxone, on peut s'en procurer quoi avec une prescription de notre médecin de famille? Je veux dire, comment tu...
Non, c'est gratuit, c'est accessible à tout le monde, qu'on soit un proche ou une personne toxicomane dans toutes les pharmacies communautaires du Québec depuis 2017. Puis à Montréal, on a 18 organisations communautaires qui redistribuent la naloxone aussi. Donc, il y a quand même une accessibilité qui est là. Donc, c'est important pour tout le monde de savoir comment c'est facile là, en pharmacie d'avoir accès à la naloxone, que ce soit intramusculaire ou intranasal, qui est encore plus facile à utiliser. Donc, oui, c'est un message important. La naloxone est disponible.
Vous m'étonnez, là. Vous m'étonnez, je l'apprends. Je ne savais pas. Moi, que c'était si facile que ça d'obtenir la naloxone. J'imagine que c'est une bonne nouvelle, une bonne décision, une bonne politique publique si on veut diminuer le nombre de décès liés aux surdoses. Est-ce que d'ailleurs, depuis qu'il est gratuit, est-ce qu'on a réussi à diminuer le nombre de surdoses, le nombre de décès liés à des surdoses, en terminant?
Mais en fait, moi, je pense que la situation qu'on vit en ce moment montre que la naloxone joue son rôle. Je pense que si on n'avait pas eu ces programmes-là de naloxone en préparation à cette situation-là, on aurait vu le nombre de décès possiblement doubler. Donc,
ah oui, OK.
Mon hypothèse, c'est que effectivement, heureusement que la naloxone est bien disponible, mais encore une fois, on est quand même inquiet que ce nombre de surdoses-là ne se traduise pas par plus de décès.
Et pourquoi des hommes de 50 à 59 ans? Pourquoi des... C'est quoi?
En fait, c'est beaucoup les hommes qui font des intoxications de surdose. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des femmes, mais c'est beaucoup des hommes. Et les groupes d'âge varient. Mais donc, dans ce qu'on a vu cet été, c'était plutôt des hommes entre 50 et 59 ans. Mais effectivement, il y a des hommes de tout âge, entre 20 et 59 ans. Donc, c'est sûr que la consommation de drogue seule à la maison est peut-être un phénomène plus masculin. En fait, je ne pourrais pas vous le confirmer.
Oui, mais ces décès-là survenaient auparavant au centre-ville. Là, ils surviennent à la maison. C'est à cause de la COVID, cela, là.
Bien, en fait, c'est une situation qu'on observe en ce moment, là, qu'il y a des consommateurs qui sont peut-être des consommateurs réguliers, peut-être des consommateurs occasionnels. C'est certainement des gens qui sont peut-être plus éloignés de nos ressources communautaires habituelles, là, qui travaillent au centre-ville. C'est sûr que ce qui est préoccupant, c'est que l'information leur soit transmise. Donc, c'est sûr que par le biais des médias, par le biais de nous communiquer, c'est vraiment important que les gens soient informés. Mais aussi l'entourage, parce que l'entourage joue un rôle très important dans la prévention. Souvent, les gens se cachent de leur consommation, mais là, je pense qu'on est à l'époque d'une ouverture pour qu'on puisse prévenir les décès.
Dr. Carole Morissette, médecin conseil à la Direction régionale de santé publique de Montréal. Merci.
Merci. Au revoir.
Après la pause, le ministre Éric Kerr, ministre responsable de tout ce qui est numérique, y compris la fameuse application COVID qui s'en vient.